Deutsche Welle. Droits et libertés.
Superficie 120 540 km² pour environ 25 millions d'habitants. Dirigeant Kim Jong-un, fils de Kim Jong-il. Capitale Pyongyang. Nom République populaire démocratique de Corée. Cette semaine et la semaine prochaine, nous parlons d'un régime très très spécial, quasiment antinomique du nom de notre émission Droits et Libertés. Cette semaine et la semaine prochaine, nous parlons de la Corée du Nord. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Le résultat du vote est que la résolution obtient 15 suffrages. Le projet de résolution 2270-2016 est ainsi adopté à l'unanimité.
C'est un résultat clair qu'a annoncé Ismaël Gaspard, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, début mars 2016. Un résultat qui instaure un renforcement des sanctions onusiennes à l'encontre de la Corée du Nord, en réaction à l'essai nucléaire et au lancement d'une fusée assimilée à un missile de longue portée, claironné par le régime de Pyongyang au mois de janvier. Même l'allié de la Corée du Nord, la Chine, a voté en faveur de ces sanctions. Liu Jieyi, ambassadeur chinois, près les Nations Unies.
Cette résolution démontre la détermination de la communauté internationale à s'opposer au développement du programme atomique et de missiles de la République populaire de Corée. La communauté internationale souhaite mettre un terme aux différends nucléaires sur la péninsule coréenne par la voie du dialogue.
En fait, de dialogue, c'est à coup de sanctions que les États du monde tentent de couper tout financement à Kim Jong-un et son programme atomique, alors même que la population nord-coréenne est exsangue. Plus question pour l'instant de continuer à exporter des produits nord-coréens, ni l'or, ni le fer, ni aucun minerai ne pourront être légalement achetés par un pays tiers. Et aucune livraison de carburant pour les avions ou les missiles nord-coréens ne pourra être effectuée en direction donc de la Corée du Nord. Explication de Samantha Power, représentante des États-Unis auprès de l'ONU.
Cette résolution que nous venons d'adopter souligne que toutes les ressources de la République populaire démocratique de Corée sont employées à élaborer sans aucun scrupule des armes de destruction massive.
Jusqu'à présent, la Corée du Nord ne s'est pas laissée impressionner par les sanctions diverses. Elle a même annoncé à la mi-mars qu'elle mettait fin à toute coopération économique avec la Corée du Sud. Cette coopération était toutefois limitée au secteur touristique du mont Kumgang et à la zone industrielle conjointe de Kaesong, souvent fermée en cas de regain de tension entre les deux sœurs ennemies.
Droits et libertés.
L'un des témoignages les plus connus sur les conditions de vie en Corée du Nord est celui de Shin Dong-hyuk. Ce jeune homme a raconté à un journaliste américain son enfance dans un camp de travail nord-coréen, les sévices qu'il y a subis et sa fuite à l'étranger, dans un ouvrage publié en 2012 en français sous le titre « Rescapé du camp 14 ». Shin Dong-hyuk a aussi témoigné devant une commission d'enquête mise en place par les Nations Unies sur les violations des droits de l'homme en Corée du Nord, et c'est sa voix que vous entendez derrière la mienne. Son témoignage poignant sur les horreurs qu'il a vécues a fait grand bruit. Shin a fait le tour du monde pour raconter le calvaire des prisonniers nord-coréens. Mais en 2015, Shin a reconnu avoir partiellement menti, ce que le régime de Kim Jong-un à Pyongyang a vite fait de récupérer pour discréditer tous les témoignages de nord-coréens en exil sur les violences auxquelles ils prétendent avoir assisté dans leur pays. Il n'en reste pas moins que la Corée du Nord est un État à part, l'un des plus répressifs au monde. Amnesty International a publié début mars un rapport sur les restrictions imposées à la population en matière de communication, par téléphone et par Internet. Et pour en parler avec nous, je salue Nicolas Krameyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable du programme Liberté d'expression chez Amnesty International France. Pourquoi s'intéresser à la liberté d'expression en Corée du Nord ?
La Corée du Nord est l'un des pays qui bafoue le plus les droits humains fondamentaux de sa population sur la planète. Si l'on s'intéresse à la question de la liberté d'expression et d'information en Corée du Nord, c'est que ce droit-là est particulièrement bafoué, il n'y en a strictement aucune. Mais ce droit aussi conditionne le respect d'autres droits, puisque sans liberté de s'informer, sans liberté de pouvoir communiquer, s'exprimer librement, il n'est bien entendu pas possible de pouvoir dénoncer ou critiquer ou faire des propositions pour des améliorations dans d'autres domaines des droits humains.
Alors, avant d'aller plus avant dans le rapport que vous venez de publier, en effet, comment est-ce que vous avez procédé au recueil d'informations? Parce que la Corée du Nord, c'est aussi l'un des pays les moins accessibles au monde. Même les enquêteurs des Nations Unies n'ont pas le droit de se rendre sur place avec des visas officiels. Comment a procédé Amnesty International pour recueillir tous les témoignages?
Bien sûr. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous avons, dans un premier temps, recueilli des témoignages de personnes réfugiées dans différents pays, notamment en Corée du Sud, mais aussi au Japon. Nous avons aussi veillé à ce que ces personnes que nous avons interviewées soient, on va dire, des réfugiés récents, c'est-à-dire qu'ils ont une information qui date de quelques mois ou quelques années sur les conditions prédominantes en Corée du Nord. Mais tous ces témoignages aussi, nous les avons corroborés et croisés avec un certain nombre d'experts et d'associations spécialisées dans un certain nombre de domaines. Donc l'ensemble des informations que nous avons publiées, si nous n'avons pas pu nous rendre sur place, ont été le plus étroitement possible corroborées. Précisément, c'est l'une des demandes majeures d'Amnesty International, c'est que des experts indépendants puissent se rendre en Corée du Nord pour faire une observation et une analyse indépendante de la situation des droits humains en Corée du Nord. Et c'est cette demande qui est régulièrement refusée par les autorités nord-coréennes.
Oui, je vous posais la question parce qu'il y avait notamment un témoignage célèbre qui était sujet à caution, celui de Shin Dong-hyuk qui avait publié avec un journaliste américain son témoignage sur son enfance et sa fuite du camp 14, rescapé du camp 14, et qui après avait amendé lui-même son propre témoignage en revenant sur certaines affirmations, sur certaines approximations. Et évidemment, le régime nord-coréen s'en est emparé pour dénoncer ou revenir, rejeter toute véracité à l'ensemble de son témoignage et des témoignages en général qui sont, d'après le régime de Pyongyang, utilisé contre lui par les Occidentaux qui veulent sa perte.
Tout à fait, et c'est bien pour ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il est extrêmement important de bien avoir en tête que des informations indépendantes et vérifiées sur la Corée du Nord sont extrêmement difficiles d'accès. Et il est donc, pour Amnesty International, d'autant plus important de pouvoir vérifier, croiser ses sources au maximum.
Pour protéger, entre guillemets, son pays de toute infiltration extérieure, Kim Jong-un, le dirigeant de Corée du Nord, a annoncé la mise en place d'une triple moustiquaire que vous mettez en exergue de votre rapport. De quoi s'agit-il ?
Depuis le début des années 2000, sans que l'opinion publique en soit véritablement consciente, il y a eu un certain nombre d'échanges et d'ouvertures extrêmement informelles qui ont eu lieu en Corée du Nord, qui sont au mieux tolérés par les autorités ou qui peuvent être durement réprimés. Notamment, c'est tout ce qu'on appelle le marché gris, donc c'est une espèce de marché noir plus ou moins toléré par les autorités, qui fait que, notamment, un certain nombre de DVD, de téléphones étrangers permettant de pouvoir téléphoner à l'étranger, ont fait leur apparition sous le manteau. Tous ces produits font désormais aujourd'hui l'objet d'une chasse sans précédent et extrêmement systématique, si vous préférez, de moyens aussi mis en place au niveau technologique pour faire en sorte que tout ce qui vient de l'extérieur soit systématiquement contrôlée et réprimée et qu'il n'y ait aucun accès à l'extérieur qui soit possible. J'en citerai deux exemples, bien entendu. Donc, il y a l'Internet nord-coréen qui est un Internet totalement hermétique au monde extérieur. Mais je citerai aussi un deuxième exemple sur lequel notre rapport se focalise beaucoup, c'est le réseau de téléphonie mobile qui a été donc mis en place en 2008 par les autorités nord-coréennes avec une entreprise égyptienne. Et ce réseau de téléphonie mobile ne permet que de téléphoner à l'intérieur des frontières de la Corée du Nord. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les autorités nord-coréennes ont mis en place un système de surveillance de ces fameux téléphones chinois, donc qui sont des téléphones importés sous le manteau depuis la Chine, et qui permettent aux Nord-Coréens, de manière totalement clandestine et extrêmement risquée, de passer des appels avec leur famille. La plupart des personnes qui sont arrêtées, soit donnent un pot de vin aux agents de sécurité, c'est généralement ce que les agents de sécurité réclament en premier, mais ces pots de vin sont tellement élevés que beaucoup finissent en camp de travail pour éventuellement plusieurs années.
Parce que ce que vous soulignez aussi, c'est la subtilité juridique, ce n'est pas l'appel en soi qui est criminalisé, mais l'interprétation du contenu qui peut rapidement tomber sous le coup de la loi, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, il n'est pas en soi illégal de téléphoner à l'extérieur, sauf si c'est vers des pays dits ennemis, comme les États-Unis ou le Japon.
C'est quasiment partout, sauf la Chine.
Voilà, exactement. Mais par contre, ce qui est réprimé, c'est la possession de ces téléphones mobiles chinois, par exemple, ou de DVD avec des comédies romantiques ou des séries ou des chansons éventuellement sud-coréennes qui sont très en vogue sous le manteau en Corée du Nord. Donc c'est tout cela qui est recherché par les autorités nord-coréennes et qui est très fortement réprimé lorsqu'une personne se voit chez lui retrouver avec un de ses outils de communication.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Lucia Walton pour les sons et Nicolas Crameyer d'Amnesty International que nous retrouverons la semaine prochaine pour la seconde partie de notre entretien sur la Corée du Nord. Pour nous écrire, une seule adresse, toujours la même, français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.